Qu'est-ce qui dirige ma vie? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Peut-être vous pouvez regarder votre voisin. Ce n'est pas à lui que vous devez penser. Qu'est-ce qui dirige ta vie? Qu'est-ce qui t'influence dans tes prises de décision? Qui dicte la manière dont tu te comportes dans les relations avec tes proches, avec tes collègues? Qu'est-ce qui détermine les priorités de ta vie? Quand on regarde à la vie des autres, vous savez, on a tendance, si vous êtes comme moi, à voir assez facilement ce qui les influence. Mais quand on pense à nos propres vies, on a souvent tendance à ne pas le voir. Nous, on n'est pas influencés par qui que ce soit. Et dans l'Église, je pense qu'on tombe souvent dans ce piège. Nous, on n'est pas influencé par le monde, on n'est pas influencé par la société, on n'est pas influencé par la culture qui nous entoure. Je vous propose ce matin cette réflexion, de se poser chacun honnêtement cette question. Qu'est-ce qui dirige ma vie? On va continuer notre étude d'un livre de la Bible qui s'appelle 1 Corinthiens. C'est tout simplement une lettre, une correspondance écrite au 1er siècle par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe en Grèce. Corinthe, une ville commerciale, portuaire, très influente en Méditerranée. Ça l'est toujours à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. C'était un carrefour à la fois commercial, où les gens venaient faire des affaires, culturel, bien sûr, c'était une grande ville, mais aussi un carrefour spirituel. C'est-à-dire qu'à Corinthe, il se retrouvait toutes sortes de croyances mélangées, des philosophes, des juifs, des prosélytes, des dieux grecs, etc. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul a vécu pendant un an et demi pour y fonder une église, une communauté chrétienne. Il a enseigné comment la bonne nouvelle de Jésus peut changer non seulement notre destinée éternelle, mais aussi notre vie ici-bas sur terre. Et dans cette lettre, Paul veut aussi préciser certains de ses enseignements passés qui ont été mal compris par les Corinthiens et parfois même rejetés complètement par cette église de Corinthe. Alors je vous propose de lire ensemble, on va prendre le gros morceau en premier, d'accord? Et puis ensuite on aura le dessert dans les deux parties plus courtes. Donc 1 Corinthiens chapitre 9, on va commencer par les versets 1 à 18. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait des troupeaux? Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne la dit-il pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. l'Évangile au cœur de mes décisions. Paul commence ce chapitre en nous rappelant sa position d'apôtre. Vous pouvez voir que c'est un chapitre qui a l'air un peu technique comme ça, mais il y a des beaux enseignements pour nous. Il commence à rappeler sa position d'apôtre en posant une série de questions rhétoriques qui font réfléchir les gens. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Dit-il à la communauté qu'il a lui-même fondée? La réponse à toutes ces questions est bien sûr oui. Oui, il est libre dans son ministère. Oui, il est apôtre, il a vu Jésus, il a conduit les Corinthiens à Jésus. Et il leur rappelle les deux caractéristiques fondamentales qui prouvent son apostolat. La première, il a vu Jésus-Christ ressuscité. Lors de sa conversion sur le chemin de Damas, Jésus-Christ lui a apparu, l'a appelé à le connaître et l'a appelé à ce ministère d'apôtre. Et deuxièmement, l'Église de Corinthe s'est formée quand Paul y a prêché. Et Paul dit que c'est comme si l'Église elle-même était le sceau, le tampon de Dieu qui venait authentifier son ministère. Paul rappelle cela aux Corinthiens et va se lancer dans une défense de ses droits en tant qu'apôtre. Si vous avez une Bible au verset 3, il dit « Voici ma défense contre ceux qui m'accusent ». Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul défend son apostolat et ses droits en tant qu'apôtre? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il le fait là, entre le chapitre 8 et le chapitre 10, qui parle de ne pas manger dans les temples d'idoles et ne pas idolâtrer de faux dieux? Quel est le rapport, Paul? Eh bien, pour certains Corinthiens, en particulier les plus aisés dans l'Église, les plus riches, les forts, comme l'appelle Paul, en tout cas ceux qui se croient forts dans la société, et du coup ils se croient forts et influents dans l'Église, pour ce groupe de personnes, les décisions et le comportement de l'apôtre Paul posent véritablement question. Pourquoi ose-t-il refuser notre argent? Nos grands orateurs et philosophes, ils se disent, ils sont tous payés, Apollos même, un autre pasteur, il accepte notre patronage financier. Alors le patronage à l'époque, quand il parle ici de recevoir de l'argent, c'était pas comme aujourd'hui un salaire où l'Assemblée Générale vote, et on vote pour un salaire tous ensemble, et on va rémunérer un pasteur. À l'époque, c'était certainement une, deux, trois personnes influentes, qui étaient influentes dans la société et riches, qui venaient donner de l'argent, mais en contrepartie, soit le poète, l'artiste ou l'orateur, comme ici c'était le cas, allait reverser de l'argent plus tard, ou alors allait donner de l'honneur et de l'estime à cette personne. Comme si on avait une plaque sur le devant de l'église, à notre grand bénéfacteur, je ne sais pas quel nom, qui a pourvu à tous les besoins pour construire ce bâtiment. Ou comme si on venait, avant de commencer nos célébrations, on faisait venir devant la scène les trois plus grands donateurs de l'église, pour montrer leur générosité à tout le monde et dire « Regardez, ils sont, c'est grâce à eux qu'on a toutes ces choses. » Alors c'est bien de pouvoir remercier les gens. Mais ici, dans ce contexte-là, recevoir l'argent des personnes, ça voulait aussi dire ça. Et ces personnes se demandent pourquoi Paul ose-t-il refuser son argent? Comment peut-il refuser de nous rendre le prestige qu'on mérite? Il semble se dire, si vous regardez les versets 4 à 6, toutes ces questions, n'avons-nous pas le droit, n'avons-nous pas le droit, n'avons-nous pas le droit? Pourquoi Paul refuse-t-il leur hospitalité et le repas qu'il propose? Pourquoi n'a-t-il pas de femme avec lui? Pourquoi s'abaisse-t-il à travailler de ses mains? Il nous fait honte. Pourquoi mange-t-il un coup de la viande cachère avec les Juifs et un coup, il mange la viande grecque au marché avec les Grecs? Il est inconstant. Ses décisions et son comportement social sont la preuve pour ces personnes que Paul n'est pas un vrai apôtre. Pourquoi donc écouter son enseignement? Il n'a aucune autorité pour nous enseigner si on doit aller dans les temples païens, verset chapitre 8, chapitre 10. Vous voyez, si Paul défend son apostolat dans ce chapitre, c'est parce que les Corinthiens rejettent son exhortation de ne pas manger dans les temples païens sur la base qu'ils n'auraient pas vraiment l'autorité apostolique pour les enseigner. Après avoir dit au verset 3 « Voici ma défense contre ceux qui m'accusent » et expliquer ici le problème, il va nous donner 5 arguments dans les versets 7 à 14 qu'on va parcourir rapidement. 7 arguments pour lesquels il estime avoir le droit d'être rémunéré par son Église pour les enseignements qu'il donne. Et aussi, cela peut s'appliquer, on le voit plus largement, à toute son équipe. Et donc, même aujourd'hui à des pasteurs, et je Dit entre parenthèses, je n'ai aucune pression pour vous expliquer ça ce matin de la part des pasteurs. Mais on va voir 5 arguments pour lesquels un ministre de l'Évangile peut être rémunéré pour son service d'enseignement de l'Évangile. Vous êtes prêts ? Si vous avez la Bible devant vous, regardez bien à partir du verset 7. Verset 7. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais ? Paul commence, premier argument pour lequel on peut rémunérer un pasteur, par exemple, lui, apôtre à l'époque. C'est une pratique courante. Il va même jusqu'à dire que c'est d'usage parmi les hommes. Le soldat, est-ce qu'il est engagé à ses propres frais ? Non ! Le vigneron, est-ce qu'il peut manger du raisin ? Bien sûr ! Le berger, est-ce qu'il peut boire le lait du troupeau ? Bien sûr, il peut en boire. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes ? Premier argument, c'est une pratique courante, c'est du bon sens qu'il ait le droit d'être rémunéré. On va expliquer pour ensuite, il y renonce hein, d'ailleurs, hein. Mais on va voir d'abord pourquoi est-ce qu'il rappelle ce droit. C'est une pratique courante. Au verset 8, il continue en nous disant que c'est une pratique spirituelle. Il va nous dire que c'est un principe, pardon, n'existe-t-elle que dans les usages des hommes ? La loi ne dit-elle pas aussi ces choses ? Il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Paul ici cite Deutéronome 25:4, un texte bien connu de ses auditeurs, écrit par Moïse. Il prend l'exemple des bœufs. Donc si Dieu aime les bœufs et qu'on doit y prendre soin quand on est en train de cultiver, à plus forte raison, si des personnes enseignent l'Évangile, l'Église doit aussi prendre soin de ces personnes. Et ça inclut financièrement de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Une pratique courante, une pratique spirituelle. Troisièmement, une pratique juste, versets 11 et 12. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons aussi vos biens temporels ? Paul reprend la même image agricole. On sème et on récolte. Ici, bien sûr, il ne parle pas de récolter une fortune et de se faire de l'argent sur le dos des autres. Non ! Tout simplement, de quoi le temps qu'il passe, qu'il ne passe pas dans un travail à gagner de l'argent, ce temps-là, de pouvoir être rémunéré pour être libre d'avoir du temps pour préparer des enseignements. Il continue en disant, si d'autres ont ce droit, d'autres peut-être Apollos, qu'il cite dans les premiers chapitres de cette lettre, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Donc rémunérer les enseignants, c'est aussi une pratique juste. C'est aussi une pratique religieuse courante dans le peuple d'Israël. Verset 13, les prêtres israélites avaient le droit à une part de certains sacrifices ou offrandes. On laissait de côté de la nourriture et de l'argent pour répondre à leurs besoins physiques et matériels. Et au verset 14, il nous rappelle que c'est aussi une pratique enseignée par Jésus lui-même. On pourrait même dire que c'est un commandement de Jésus. Il dit, de même le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent de l'Évangile, de vivre de l'Évangile. C'est une référence ici, une paraphrase de Luc 17, où Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire, en parlant des apôtres qu'il envoyait en mission. Ça va ? On a vu ces 5 arguments-là, une pratique courante, une pratique spirituelle, une pratique juste, une pratique religieuse courante dans le peuple d'Israël, et une pratique enseignée par Jésus. Ok, Paul a bien argumenté sur le fait qu'il peut avoir, justement, une rémunération juste. Il en a le droit. Alors, entre parenthèses, j'espère que cela nous encourage à agir ainsi envers les pasteurs qu'on rémunère dans l'Église, à rechercher pas toujours les choses au rabais, même une rémunération au rabais, mais une rémunération juste pour leur travail. C'est la parenthèse est close et j'ai aucune pression pour le dire. Je crois que le texte ici, Paul le dit très clairement. Paul argumente son droit. Alors on peut se demander, ok, Paul, il parle de son droit, voilà, j'ai 5 raisons, il va fort quand même, avec passion quand on le dit, n'avons-nous pas le droit, n'avons-nous pas le droit, n'avons-nous pas le droit, bim, 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 5 arguments. Toutes ces arguments, c'est une seule phrase d'ailleurs, dans l'original. Est-ce qu'il veut juste être payé, peut-être ? Ben, il ne semble pas, hein. Paul précise au verset 15, « Ce n'est pas pour réclamer ses droits en ma faveur que j'écris ainsi. » Alors pourquoi est-ce qu'il écrit ça ? Il va le dire, et il l'a dit un peu avant, « Nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile de Christ. Paul défend son droit avec passion, puis explique pourquoi il y renonce volontairement. S'il renonce à son droit, c'est pas qu'il est un faux apôtre. Ça ne veut pas dire qu'il est un faux apôtre. S'il travaille de ses mains, les autres apôtres, c'est des vrais, ils sont à plein temps dans l'église. Non, c'est pas qu'il est un faux apôtre, dit Paul ici. S'il y renonce, c'est pour l'évangile, pas créer d'obstacles à l'évangile. L'évangile, cette bonne nouvelle de Jésus, dont on a tant entendu parler ce matin, mort sur la croix pour nos fautes, pour nos péchés, pour tout ce qu'on a fait de mal, pour notre honte, pour notre séparation avec Dieu, et ressuscité d'entre les morts pour nous donner son pardon, sa grâce, son amour, une vie nouvelle, un nouveau départ. Cet évangile qui a transformé la vie de Paul, qui était un persécuteur de l'Église, si vous ne le saviez peut-être pas, mais avant de devenir apôtre, c'était un extrémiste qui tuait les chrétiens et les mettait en prison. Mais cette rencontre avec Jésus a fait un 180 dans sa vie et l'a complètement changé. Et c'est pour cet évangile-là qu'il est prêt à renoncer à ses droits. Ce qui dirige les décisions de Paul, ce ne sont pas ses droits, c'est l'évangile. Ce n'est pas non plus la culture qui, à l'époque, poussait les orateurs à être rémunérés et ensuite à mettre en estime des personnes de manière... c'était too much. Non, ce qui dirige Paul, c'est l'évangile de Christ. L'évangile l'a tellement changé, bouleversé, transformé, qu'il ne ferait rien qui puisse créer d'obstacles à partager ce merveilleux message à d'autres personnes. Et si accepter l'argent des forts à Corinthe risque de créer d'obstacles pour les faibles dans l'Église, les moins riches, les moins influents, qui ne se sentent pas dignes de pouvoir accepter l'Évangile, qui ne se sentent pas dignes d'avoir une place dans l'Église. Si d'accepter l'argent, ça crée ces divisions-là dans l'Église, il était prêt à dire « moi j'y renonce ». Vous savez pourquoi ? Parce que Paul, il n'enseigne pas l'Évangile pour gagner un statut social, pour être bien vu, pour se faire une carrière, pour être célébré par les hommes. Il enseigne l'Évangile et nous le dit parce que Dieu lui a confié cette charge. Dieu l'a appelé à ce ministère. Il y voit une grâce, mais aussi une responsabilité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, nous dit Paul. Pour Paul, le seul sujet de gloire, il nous dit dans le texte, au verset 18, il réside dans sa faiblesse, dans ce qu'il aura donné en retour avec joie et volontairement, je précise, il est poussé par personne. Tout ce qu'il aura donné pour l'Évangile. Il dit même, ma récompense, en gros, il est presque ironique, je sais que ça ne peut peut-être pas vous faire rire, mais bon, en tout cas, il était ironique un peu pour les Corinthiens. Il disait, mon salaire à moi, ma récompense, c'est d'offrir gratuitement l'Évangile en renonçant à mon droit de prédicateur de l'Évangile. Verset 18. Paul va même jusqu'à dire, c'est un peu dur, j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Mais il débloque ici, Paul. Est-ce qu'il devient complètement fou ? Non. Car pour lui, le plus grand privilège, la plus grande récompense, le plus grand salaire, c'est que sa vie et son ministère soient un reflet, un exemple de l'Évangile. Tellement reconnaissant de l'avoir reçu, qu'il veut tellement que sa vie soit une image pour les autres, qu'ils puissent le voir en lui et le recevoir à leur tour. Il ne veut en rien créer des obstacles à l'Évangile. L'Évangile, où on apprend qu'on est sauvé gratuitement par l'œuvre de Jésus à la croix. Paul veut que les Corinthiens le comprennent. Et donc, pour cela, il est prêt à renoncer à ses droits. Et il dit qu'il souffre tout. Ce n'est pas que c'était facile pour lui de dire « je refuse votre argent ». Ça devait être ultra dur. Dans d'autres textes, il dit que jour et nuit, il travaille de ses mains. C'est-à-dire qu'il travaille littéralement, il était fabricant de tentes avec Priscille et Aquilas. Il travaillait pendant la journée, parfois tard le soir. Et pendant la pause de la sieste, là, on sait ce que c'est quand il y a la canicule. Quand la pause sieste arrive, quand il fait trop chaud, et bien là, il allait annoncer l'Évangile. Il allait enseigner l'Église. Ça lui coûtait énormément. Mais il renonce à être payé pour que la gratuité de l'Évangile soit bien comprise par l'Église de Corinthe, qui avait du mal à comprendre qu'on est vraiment sauvé gratuitement. Lorsque Paul prenait une décision, comme celle d'être rémunéré ou pas, comme celle de manger de la viande au marché ou pas, l'Évangile était au cœur de sa prise de décision. La semaine dernière, quand on a vu le chapitre 8 avec Sam, il nous a rappelé que la vie chrétienne, ce n'est pas une série de « j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça ». Non, Dieu désire changer nos cœurs pour qu'on puisse aimer Dieu et notre prochain. Et que ce soit cet amour pour Dieu et notre prochain qui va dicter nos décisions. On ne va pas être des robots qui disent « Non, on m'a dit, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. » Non, Dieu veut changer nos cœurs pour que de nous-mêmes, on puisse dire « Non, ça, ça ne plaît pas à Dieu et ça ne fait pas du bien aux autres qui m'entourent. » Waouh ! Ça, ça change de la religion. Où quelqu'un se met devant ici et enseigne « Faites ci, faites pas ça, regardez pas ça à la télé, faites ça avec votre argent. » Jésus, ce qu'il enseigne ici, c'est « Je vais changer vos cœurs. » Et puis, c'est vous qui allez pouvoir prendre vos décisions. Et c'est l'Évangile qui va façonner les décisions que vous prenez. Alors, qui est-ce qui dirige tes décisions? Qui est-ce qui dirige tes décisions? Il ne s'agit pas, encore une fois, de regarder horizontalement à côté de nous, de juger les décisions des uns des autres. C'est une question pour chacun d'entre nous. Est-ce que l'Évangile est au cœur de mes décisions? Deuxièmement, l'Évangile au cœur de mes relations. Regardez les 5 versets suivants, 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Écoutez bien le verset 23. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Verset 19, Paul revient sur cette question du verset 1. Ne suis-je pas libre? Et il le développe un peu. Il dit, bien que je sois libre à l'écart de tous, je me suis rendu serviteur de tous. Littéralement, Paul dit ici, bien que je sois l'esclave de personne, je me suis fait l'esclave de tous. Paul revient ici, il parle un peu de la notion d'alimentation du chapitre 8, de ces viandes, est-ce qu'on peut aller manger les viandes sacrifiées au marché ou pas. Et pour ses détracteurs, ceux qui l'accusaient, Paul était complètement incohérent. Un jour, il mangeait cachère avec les Juifs, l'autre jour, la viande au marché. Comment pouvait-il être un vrai apôtre? Comment pouvait-on se fier à son enseignement? Et Paul les reprend en disant, non, ce qui dirige mes relations sociales, mon comportement social, c'est le message de l'Évangile. Regardez, avec les Juifs comme Juifs, concrètement, il était avec les Juifs, il mangeait cachère, il n'aurait pas mangé n'importe quelle viande avec les Juifs pour ne pas les choquer, pour ne pas leur empêcher d'entendre parler de Jésus. Avec ceux qui sont sous la loi, donc sous la loi juive ici, on est tous sous la loi de notre pays, comme sous la loi, bien que pas sous la loi, rappelle Paul, il n'était pas obligé de manger cachère quand il était avec les Juifs, mais il le faisait volontairement, par amour pour eux. Il continue, avec ceux sans loi, comme sans loi, il précise bien que pas sans loi, il fait un jeu de mots ici pour dire qu'il est bien sûr sous la seigneurie de Jésus-Christ et qu'il ne vit pas, bien évidemment, dans la débauche et l'immoralité avec les gens qui ne suivent pas Jésus, mais pour tous les aspects culturels, comme celui de manger de la viande, ben il s'adaptait aux pratiques alimentaires. Avec les faibles, comme un faible, il ne mangeait pas de viande du marché, avec les Corinthiens qui avaient l'impression d'idolâtrer quand ils mangeaient de la viande du marché. Paul explique son comportement qui semble incohérent pour ces personnes, mais qui, selon l'Évangile, est justement cohérent. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Paul place au cœur de ses relations, de son comportement en société, le message de l'Évangile. C'est son moteur pour sa vie. Son amour pour les autres est à la mesure de l'amour que Dieu a déversé dans son propre cœur. Paul est convaincu que seul Jésus peut sauver une personne, peu importe son arrière-plan. Il est convaincu que l'amour de Dieu peut ouvrir nos cœurs, que son pardon, sa grâce peuvent nous donner un nouveau départ, alors il est prêt pour cela, à s'adapter. Si c'est d'arrêter de manger certaines viandes, pour un temps, devant ses amis juifs, pour ne pas perdre l'occasion de leur parler de Jésus, eh bien, il ne va pas manger de la viande. Qu'est-ce que c'est d'y renoncer pour un repas ou deux? Si cela me donne l'opportunité de partager la meilleure nouvelle qui ait transformé mon cœur, comme on l'a entendu ce matin. Timothy Keller l'explique ainsi. Si nous devons rebuter ceux qui nous écoutent, en gros quand on parle de Jésus, que ce ne soit pas par une attitude culturellement blessante, mais plutôt par l'annonce de l'Évangile. Si le message de l'Évangile est quand on dit que Jésus-Christ seul peut nous sauver, ça peut choquer certaines personnes. On le dit avec humilité, on croit que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on l'annonce, parce qu'on veut que tous puissent connaître cette joie qu'on a de connaître Jésus et sa grâce et son pardon. Mais si c'est mon attitude qui va venir blesser la personne, là il y a un problème. Vous comprenez? Je me rappelle un jour où c'est arrivé, je ne m'y attendais pas. J'étais étudiant à New Delhi en Inde pendant quelques mois. Et j'aimais beaucoup mes collègues, et j'aimais beaucoup mon église locale, et j'étais très engagé dans mon église locale. Et un jour, un samedi, mes collègues avaient travaillé sur une urgence au bureau, comme ça arrive aussi beaucoup là-bas. Et ils m'appellent en fin d'après-midi pour dire « Paul, on va aller en ville, on va faire du pédalo au centre-ville. Il y a un petit lac où tous les jeunes adultes y vont faire du pédalo, manger une glace, parce que vous savez ce que c'est avec la canicule. » En Inde, tous les ans, c'est la canicule pendant 3 mois. Et donc, on est bien sur les pédalos avec la glace. Et il m'invite à venir. Et moi, je ne pouvais pas. J'avais une réunion d'église. Peut-être que ça va vous choquer comme exemple. L'exemple de Paul ici choquait les Corinthiens. Vous savez ce qu'il m'a dit, mon ami, au téléphone ? Il était toujours avec les gens de l'église. Tous les week-ends. Jamais tu viens à nos choses. Tu les aimes plus que nous, en fait. Waouh ! Ça a vraiment touché mon cœur. En plus, j'allais déjà à l'église le lendemain matin, le lendemain après-midi. C'est très important d'avoir des relations d'église. Je ne dis pas du tout le contraire, hein. Écoutez bien. C'est super important. On en a vraiment besoin, et certains ont besoin d'entendre qu'il faut s'intégrer dans l'église locale, dans une cellule, etc., comme on le dit dimanche après dimanche. Mais ici, ce jour-là, vous voyez, j'aurais pu leur dire après au travail, Jésus-Christ, il est venu, il a laissé son confort du ciel, il est venu sur la terre, il nous a tellement aimés, il est venu proche de nous pour nous parler dans un langage qu'on peut comprendre, sa grâce est accessible, elle est visible dans sa vie. Et moi, je n'étais pas prêt à renoncer à peut-être une réunion de plus. Ce jour-là, en tout cas, je pense que la chose la plus cohérente avec l'Évangile, c'était de renoncer à cette réunion pour aller avec ces amis-là. Et le sourire sur leur visage et des temps qu'on a passés ensemble, je pense, l'ont ensuite prouvé. Peut-être cet exemple peut choquer certains. Encore une fois, je dis que c'est très bien et c'est même très important de s'intégrer dans une église locale. Et peut-être qu'un jour, si c'est pour y aller, juste parce qu'il faut y aller, et rater l'anniversaire des 18 ans de son ami, ou rater un mariage, ou rater un moment important dans la vie de quelqu'un. Je crois que l'Évangile peut nous pousser dans nos relations sociales à pouvoir aller, tels des disciples qui veulent annoncer la venue du Maître. On doit se poser la question, l'Évangile est-il au cœur de mes relations? Et pour terminer, cette belle conclusion de Paul, l'Évangile au cœur de mes priorités dans ces 3 derniers versets. Les sportifs, vous allez aimer ces exemples. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, je boxe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Courez de manière à remporter le prix, dit Paul. Courez, c'est l'impératif au cœur de ce dernier paragraphe. Courez comme le coureur qui ne court pas à l'aventure, vous savez, il ne sait pas trop où il va. Il sent le feeling à gauche, à droite, comme quand on fait un jogging. Non, le coureur dans le stade, il court en suivant le parcours. Le boxeur, quand il court, quand il frappe, il n'y a pas l'adversaire là, puis il tape à côté dans l'air, non? Il vise l'adversaire. Il a une intention qui vient motiver sa vie, une discipline même qui le pousse en avant. Comme les athlètes s'imposent des abstinences, dit Paul, il parle même de discipline sévère. Paul dit qu'il traite durement son corps, il le tient assujetti, il le maîtrise sévèrement. Alors la discipline dont parle Paul ici est une discipline passionnée, une discipline volontaire. Ce n'est pas une discipline voulue, comment dire, imposée par les autres où on irait se flageller pour gagner quelques points auprès de Dieu. Et la discipline n'est pas non plus une fin en soi. Mais cette discipline qu'il veut vivre dans sa vie et son ministère, à l'exemple de l'athlète qui se prépare, on a vu les joueuses de l'équipe de France, elles se sont préparées, tellement déçues de perdre leur match. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont préparées, elles ont tout donné. Eh bien, Paul veut vivre de la même manière pour l'Évangile. Puiser dans la grâce de Dieu et pouvoir tout vivre pour Jésus. Mais on peut le faire seulement si on a compris ce que Jésus a fait pour nous. Faites de même, c'est ce que Paul veut dire aux Corinthiens. Comme il le dira au chapitre 11, verset 1, « Suivez mon exemple comme moi je le suis de Jésus-Christ. » C'est un appel qui est vrai pour les ministères, mais pour tout chrétien. Ça en vaut la peine, bien plus la peine qu'un athlète. Ici, il prend l'exemple des JO de l'époque, où il y avait une couronne qui est corruptible. C'est quoi ? C'est une couronne en persil. Et la couronne, au bout de quelques semaines, elle était fanée. Un peu parfois comme nos boutonnières de mariage qu'on peut garder là, fanées, mais elles sont fanées. Parce que la couronne du sportif, elle va à un moment donné faner. Sa gloire va s'arrêter. Même Kylian Mbappé, un jour, sera à la retraite. C'est dommage, hein. On a déjà vu Zizou, bon, Usenbolt, le roi Pelé, c'est vrai, pour les plus anciens. On n'oublie pas. Mais un jour, vous voyez, ces choses-là, elles vont passer. La couronne qui nous attend, dit Paul, c'est une couronne qui, elle, ne flétrit pas. C'est une couronne qui ne rouille pas. C'est une couronne qui est incorruptible. Personne ne pourra nous l'enlever. Personne ne pourra la changer. C'est une couronne qui nous attend déjà en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on veut courir. Courons avec Jésus, dit Paul, et pour lui. Laissons l'Évangile au cœur de nos décisions, de nos relations, de nos priorités de vie. Même si cela nous coûte, on peut puiser en lui les forces de le faire. L'Évangile au cœur de nos vies. J'aimerais donner un dernier mot pour Lilou, merci, et Nicolas. Nous sommes reconnaissants pour les témoignages ce matin de vos vies transformées par l'Évangile. Courez ! Courez avec Jésus, courez pour Jésus. Même si pour d'autres ça ne fait pas sens. Courez avec lui, ça en vaut la peine. Il est là à vos côtés. Puisez dans sa grâce pour le servir de tout votre cœur. Et pour nous tous aussi, c'est tellement un beau rappel. Quand on voit ce baptême, de se dire, il faut me poser la question, il faut que je me pose la question sur la réalité de Dieu à un moment donné de ma vie. Si je viens à l'église pour la première fois ou depuis 50 ans ou plus, c'est un bon rappel. Qui est-ce qui dirige ma vie ? Qui est-ce qui influence mes décisions ? Qui est-ce qui dicte mon comportement social ? Qui est-ce qui vient motiver mes priorités de vie ? Ce matin, on va chanter un chant et l'équipe de musique peut venir pour clôturer ce temps. Et je vous propose de vraiment réfléchir à cette question, de ne pas la laisser en l'air. On va chanter ce chant qui s'appelle « Offrande ». C'est un moment où on peut venir devant Dieu et simplement ouvrir notre cœur. Vous savez qu'il y a deux mots qui peuvent peut-être changer votre vie. Le mot « pardon » et le mot « merci ». Quand on regarde à la croix, ça nous rappelle à quel point nos fautes nous séparaient de Dieu et il a dû mourir pour nous, Jésus. Et on peut lui dire « pardon ». Mais quand on voit la croix qui est vide, Jésus ressuscité, on veut aussi pouvoir dire « merci » parce qu'on a reçu pleinement sa grâce.